Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 23. Le soupçon avait bien effleuré l'esprit de Lucetta au moment de sortir de sa cachette que le visiteur pourrait ne pas être Henchard. Mais il était trop tard pour reculer. Beaucoup plus jeune que le maire de Casterbridge, l'homme était blond, frais et d'une beauté dégagée. Il portait sobrement des jambières de drap à boutons blancs, des bottines luisantes à œillets innombrables, une culotte de coutil sous une veste et un gilet de velours. Il tenait à la main une badine à pommeau d'argent. Lucetta rougit et, avec une expression où se mêlaient singulièrement la moue et le sourire, s'écria « Oh ! Je me suis trompée !» Mais le visage du visiteur ne se déridait pas. « Je suis bien fâchée, » s'excusait-il d'un ton contrit. « J'étais venue demander Miss Henchard. On m'a fait entrer ici. Je ne vous aurais pas surprise avec un pareil sans gêne si j'avais su. »« C'est moi qui suis la seule coupable, » répondit-elle. « Me serais-je trompée de maison, madame ?» demanda Farfrae, dont l'étonnement faisait cligner les yeux et qui tapait nerveusement sa jambière avec sa badine. « Oh non, monsieur !» Mais prenez donc un siège, il faut vous asseoir puisque vous êtes ici, fit aimablement Lucetta, pour tirer le jeune homme d'embarras. Miss Henchard va bientôt rentrer. Cette assertion n'était pas tout à fait exacte, mais la singulière attraction du jeune homme, le charme hyperboréen, la fragilité un peu sévère, la séduction pareille à celle d'un instrument de musique tout vibrant, tout ce qui avait, au premier abord, éveillé l'intérêt d'Henchard, d'Elizabeth Jane et des joyeux hôtes des trois matelots, rendait attrayante pour Lucetta cette présence inattendue. Farfrae hésita, regarda la chaise, jugea, sans se douter du véritable péril, qu'il n'y avait pas de danger à s'asseoir, et obéit à la jeune femme. La soudaine entrée de Farfrae était simplement la conséquence de la lettre d'Henchard, qui l'autorisait à voir Elizabeth s'il voulait lui faire la cour. Il n'avait d'abord prêté aucune attention à la brusque proposition du maire, mais un marché exceptionnellement avantageux venait de lui faire sentir, en le plaçant sur un pied d'égalité avec quiconque, qu'il pourrait se marier dès qu'il en aurait le désir. Comment trouver fille plus séduisante, plus sérieuse et de tout point plus satisfaisante qu'Elizabeth Jane? En dehors de ses avantages, un mariage avec elle assurerait de plus, très naturellement, la réconciliation de Farfrae avec son ancien ami. Sans se formaliser de la sécheresse du mot d'Henchard, l'Écossais s'était décidé, ce matin-là, à aller frapper à la porte du maire, et avait appris qu'Elizabeth se trouvait chez Miss Templeman. Un peu vexé de ne pas la trouver toute prête pour l'attendre, tant les hommes sont illogiques, il était accouru à la maison de la place haute, et n'y avait pas rencontré Elizabeth, mais la maîtresse du logis. « La foire paraît importante aujourd'hui, » dit la jeune femme, dont les yeux naturellement détournés se portaient vers la scène animée du dehors. « Je m'intéresse toujours à vos foires et à vos marchés. À combien de choses je songe en regardant ainsi par ma fenêtre ?» Farfrae parut hésiter à répondre, et le murmure du marché lui parvint aux oreilles comme la voix confuse d'une mère apaisée dont une vaguelette, de temps en temps, s'élève au-dessus des autres. « Vous regardez souvent par la fenêtre ? » demanda-t-il. « Oui, très souvent. Chercheriez-vous un visage de connaissance ?» On pourrait s'étonner de la raison qui poussa la jeune femme à répondre comme elle le fit. « Non, je regarde la scène comme on regarde un tableau. « Mais, » poursuivit-elle, en se tournant avec amabilité vers Farfrae, « je pourrais le faire à l'avenir. Je m'efforcerai de vous voir. Vous êtes toujours au marché, n'est-ce pas ?» Ah, je ne parle pas sérieusement, mais il est amusant de chercher dans une foule une personne de connaissance, même si l'on n'a rien à lui dire. Cela atténue l'impression d'angoisse que l'on éprouve à se sentir perdu dans une masse de gens, sans avoir, par aucun d'eux, de contact avec cette foule. Oui, c'est vrai. Vous allez peut-être vous trouver très seule, madame. Personne ne peut soupçonner à quel point. Mais vous êtes riche, dit-on. Peut-être, seulement... Je ne sais comment jouir de ma fortune. Je suis venue à Casterbridge avec l'espoir de m'y plaire, mais je commence à en douter. D'où veniez-vous donc, madame ?
Des environs de Bath.
Et moi, je viens des environs d'Édimbourg, murmura-t-il. Il vaut mieux rester chez soi, c'est sûr, mais un homme doit vivre où il fait de l'argent,
C'est un malheur, mais c'est une nécessité. Pour moi, j'ai bien réussi cette année. Oh oui, poursuivit-il avec un enthousiasme ingénu. Vous voyez cet homme au manteau de Casimir marron? Je lui ai acheté de grosses quantités de blé à l'automne, au moment des cours les plus bas, et plus tard, quand ils se sont un peu relevés, j'ai vendu toute ma provision. Je me suis contenté d'un bénéfice modeste, et j'ai laissé les fermiers, dans l'attente de prix meilleurs, garder leurs grains, que les rats rongeaient dans les meules. Au moment où je vendais, le marché est tombé, et j'ai acheté leur blé à ceux qui l'avaient si bien conservé, moins cher que lors de ma première affaire. Après quoi, poursuivit impétueusement l'Écossais, le visage tout illuminé, j'ai revendu quelques semaines après, au moment de l'ascension des cours, et ainsi, en me contentant de petits bénéfices souvent renouvelés, je n'ai pas été long à me faire 500 livres. Oui. Il frappait la table de la main sans se souvenir de l'endroit où il se trouvait. Tandis que les autres, en voulant trop gagner, n'ont rien gagné du tout. Lucetta regardait avec un intérêt critique ce jeune homme, qui représentait pour elle un type tout nouveau. Les yeux de Farfrae rencontrèrent tout à coup ceux de la jeune femme. « Ah, voilà que je vous ennuie, » s'excusa-t-il. « Pas du tout, » protesta Lucetta, avec une légère rougeur. « Mais alors, c'est tout le contraire. Vous m'intéressez fort. » Ce fut au tour de Farfrae de rougir modestement. « Je parle des Écossais en général, » se hâta de corriger la jeune femme. « Leurs humeurs sont si éloignées de nos façons tranchées du Sud. Nous, gens du commun, nous sommes tout l'un ou tout l'autre, brûlants ou glacés, passionnés ou très froids. » Chez vous, on trouve les deux manières d'être en même temps. Que voulez-vous dire? Ne voulez-vous pas vous expliquer plus clairement, madame? Vous êtes plein d'ardeur quand vous ne songez qu'à marcher de l'avant. Puis, la minute d'après, vous êtes tout triste parce que vous pensez à l'Écosse et à vos amis. En effet, je pense quelquefois à mon pays, répondit-il simplement. Moi aussi, autant que je le puis. Mais la maison où je suis née était bien vieille. Et on l'a abattue pour faire des embellissements. Alors, c'est comme si je n'avais plus de maison natale. » Lucetta n'ajouta pas, comme elle aurait pu le faire, que c'était à Saint-Hélier et non à Bath, que s'était élevée la maison dont elle parlait. Mais les montagnes, les brumes, les rochers, tout cela subsiste. N'est-ce pas assez pour vous faire songer à votre pays? Elle eut un hochement de tête négatif. Pour moi si, murmura-t-il. Et l'on voyait que son esprit s'envolait vers le nord. Que cette originalité fût un trait personnel ou national, il n'était pas moins certain, comme l'avait remarqué Lucetta, que les deux courants de la vie de Farfrae, courant pratique et courant romanesque, étaient très distincts par moments. Comme les brins d'un cordon bariolé, ces aspects se juxtaposaient sans se confondre. « Et voudriez-vous retourner là-bas » demanda-t-elle. « Oh non, madame !» s'écria Farfrae, brusquement rappelé à lui. La foire déchaînait maintenant sous les fenêtres sa bruyante animation. C'était la plus grosse foire de l'année, pour les engagements de domestiques, et elle différait totalement des marchés précédents. La foule brunâtre était semée de points blancs, qui désignaient les travailleurs en quête d'une place. Aux blouses des voituriers se mêlaient les bonnets des femmes, allongés comme des bâches de charrette, les robes de cotonnade et les châles à carreaux, car les femmes offraient aussi leurs services. Dans la foule, sur un coin du trottoir, se tenait un vieux berger, dont l'immobilité attira les regards de Lucetta et de Farfrae. On sentait en lui un être douloureux, pour qui le combat de la vie avait dû être rude. Il était d'ailleurs pauvrement bâti, et si fort courbé par les années et le dur labeur, qu'en arrivant derrière son dos, on voyait à peine sa tête. Il avait planté dans le ruisseau le bout de sa houlette, et s'appuyait sur une crosse, que la friction de ses mains avait à la longue poli comme de l'argent. Les yeux perdus sur le sol, il paraissait oublier totalement où il était et ce qu'il venait faire. Des négociations se poursuivaient à quelques pas de lui, à son sujet, mais il n'entendait rien, tout à la contemplation des souriantes visions d'un temps de jeunesse où les engagements affluaient et où son adresse lui ouvrait toutes les portes à la première demande. La discussion s'agitait entre un fermier des pays lointains et le fils du vieillard. Il surgissait une difficulté. Le fermier ne voulait dans le marché pas prendre la mide sans la croûte, autrement dit le vieux pâtre sans le jeune homme. Près du fils se tenait son amoureuse, domestique dans la même ferme que lui, et qui attendait, avec des lèvres pâles, l'issue du débat. « Cela me fait de la peine de te quitter, Nelly, » fit le jeune homme avec émotion. « Mais, tu vois, je ne puis laisser le père mourir de faim, et il n'aura plus d'emploi à l'Annonciation. Nous ne serons qu'à 25 lieues. » Les lèvres de la jeune fille tremblèrent. « 25 lieues, murmura-t-elle. Ah, cela suffit, je ne te reverrai jamais. »
C'était là, en effet, une impossible distance d'attraction pour l'aimant du seigneur Cupidon, et les jeunes hommes étaient des jeunes hommes à Casterbridge, comme autre part.
« Oh non, non, je le sais bien, » gémit-elle, en réponse au geste de son ami qui lui serrait la main,
et elle tourna son visage vers la maison de Lucetta pour cacher ses pleurs. Le fermier laissa au jeune homme une demi-heure pour se décider, et s'éloigna en laissant le petit groupe à son chagrin. Lucetta, les yeux pleins de larmes, rencontra le regard de Farfrae. Elle fut surprise de voir les yeux de l'Écossais humides aussi.
« C'est trop dur !» s'écria-t-elle, avec une émotion sincère. « On ne devrait pas séparer comme cela les amoureux. Oh, si je pouvais agir à mon gré, je laisserais toujours les gens vivre et s'aimer à leur guise. »«
Peut-être pourrais-je empêcher cette séparation, » dit Farfrae. « J'ai besoin d'un jeune charretier, et je pourrais bien prendre le vieux par-dessus le marché. Oui, il ne me coûtera pas bien cher, et je trouverai bien à l'employer d'une façon ou de l'autre. »«
Oh, que vous êtes bon !» s'écria la jeune femme, ravie. « Allez le leur proposer, et revenez me dire si vous avez réussi. »
Farfrae sortit, et elle le vit parler aux pauvres éplorés dont les visages s'éclairèrent. Le marché fut vite débattu, et dès qu'elle l'eut conclu, Farfrae remonta près de Lucetta.
« C'est une véritable bonté de votre part, » fit-elle. « En ce qui me concerne, j'ai décidé que toutes mes bonnes auraient des amoureux si elles le voulaient. Faites comme moi. »
Farfrae prit une expression sérieuse et tourna à demi la tête. « Il me faut être un peu plus stricte que cela, » fit-il.
« Pourquoi ?
Vous êtes une femme riche et moi je ne suis qu'un laborieux négociant.
Mais je suis aussi une femme ambitieuse.
Ah ! Je ne puis vous expliquer, je ne sais pas parler aux dames, ambitieuses ou non.
Et c'est bien vrai, fit Donald, avec une gravité nuancée de regret. J'essaie d'être poli avec les gens, voilà tout.
Je vois que vous êtes bien tel que vous le dites, fit Lucetta, qui reprenait la supériorité sur le terrain sentimental. Cette pénétration fit reporter à Farfrae les yeux par la fenêtre sur le milieu de la foule. Sous les murs de la maison, deux fermiers se rencontraient et échangeaient une poignée de main. Leurs propos parvenaient dans la pièce comme ceux du groupe éploré quelques instants auparavant.
« Avez-vous vu le jeune monsieur Farfrae ce matin ?» demanda l'un des deux hommes.
« Il m'avait promis de se trouver ici sur le coup de midi, mais j'ai fait une demi-douzaine de fois le tour de la foire en long et en large sans voir trace de lui. C'est pourtant un homme de parole d'ordinaire.
Oh, « J'avais tout à fait oublié ce rendez-vous !» murmura Farfrae.
« Alors, il faut y aller, n'est-ce pas ?» demanda Lucetta.
« Évidemment, » répondit-il, mais sans bouger davantage.
« Vous devriez descendre, » insista-t-elle. « Vous allez perdre un client. »«
Et vous, Miss Templeman, vous allez me fâcher, » s'écria l'Écossais.
« Soit, n'y allez pas, mais vous resterez un peu, alors. » Farfrae jeta un regard inquiet sur le fermier qui le cherchait et qui se dirigeait justement vers l'endroit où se tenait Henchard. Piqué par ce mouvement significatif, l'Écossais reporta les yeux dans la pièce et sur la jeune femme.
« J'aimerais bien rester, » dit-il, « mais je crains d'être obligé de partir. » Il ne faut pas négliger les affaires, n'est-ce pas ?
Pas un instant.
C'est vrai, je reviendrai une autre fois,
si vous me le permettez, madame.
Certainement, ce qui nous est arrivé aujourd'hui est bien curieux.
Ce sera de quoi rêver quand nous serons seuls, n'est-ce pas ?
Oh, je ne sais pas, ce n'est qu'une rencontre assez banale, en somme.
Non, ce n'est pas mon avis.
Oh non.
En tout cas, c'est fini maintenant, et le marché vous appelle.
Oui, oui, le marché, les affaires. Je voudrais qu'il n'y eût pas d'affaires en ce monde. »
Lucetta sourit. Elle eût ri franchement sans la petite émotion qui montait en elle.
« Comme vous changez !» s'écria-t-elle. « Il ne faut pas se contredire comme cela. »
« Je n'avais jamais rien dit de pareil, » répondit simplement l'Écossais, avec un regard un peu honteux, qui implorait une excuse pour sa faiblesse.
« C'est seulement depuis que je suis entrée ici et que je vous ai vue. »
« Dans ce cas, mieux vaut ne plus me regarder, mon Dieu. Je sens que je vous ai complètement démoralisée. »
« Que je vous regarde ou non, je ne vous enverrai pas moins dans mes pensées. Allons, je m'en vais, en vous remerciant du plaisir que m'a valu cette visite. C'est moi qui vous remercie d'être resté.
Peut-être retrouverai-je ma tête des jours de marché, quand je serai dehors depuis quelques minutes, » murmura Farfrae.
« Mais je n'en sais rien du tout. »
En le voyant se lever, Lucetta reprit vivement.
« Vous pourrez entendre parler de moi en ville un jour ou l'autre. » Si, comme c'est possible, on m'accuse d'être une coquette, à cause de certains incidents de ma vie, n'en croyez rien, car ce n'est pas vrai.
« Je vous jure de n'en rien croire, » promit Donald avec ferveur.
Ainsi vont les choses. Lucette avait si bien échauffé l'enthousiasme du jeune homme qu'il était tout vibrant, et lui, par le seul spectacle d'une inhabituelle oisiveté, avait éveillé chez elle un sérieux intérêt. Comment la chose s'était-elle faite? Il n'aurait su le dire. Dans sa jeunesse, Lucetta n'aurait pas eu Dieu pour un commerçant. Mais les hauts et les bas de son existence, et par-dessus tout, son imprudente compromission avec Henchard, l'avaient rendue moins difficile à l'endroit de la situation sociale. Repoussée au temps de sa pauvreté par le monde auquel elle appartenait, elle n'avait pas grand désir d'y rechercher une place. Son cœur réclamait un asile, où se réfugier et rester au repos. Fruste ou élégant, peu lui importait, pourvu qu'il fût chaud. Farfrae sortit de la maison, sans se souvenir un instant qu'il y était venu pour voir Elisabeth. Lucetta le regardait, de la fenêtre, chercher son chemin dans un labyrinthe de fermiers et de garçons de ferme. Elle comprenait, à voir l'attitude du jeune homme, qu'il avait conscience de son regard. La modestie de l'Écossais lui avait gagné le cœur de Lucetta et fournissait à son désir de le revoir un argument qui s'opposait à l'insuffisance de sa situation. Il entra sous la halle et elle ne le revit plus. 3 minutes après, elle venait de quitter la fenêtre lorsque des coups frappés à la porte, avec plus de force que d'insistance, retentirent par la maison. La femme de chambre monta l'escalier. « Le maire » fit-elle. Lucetta avait repris sa place sur le sofa et regardait d'un air rêveur à travers ses doigts. Elle ne répondit pas tout de suite et la domestique insista en ajoutant « Il a peur de n'avoir pas beaucoup de temps qu'il dit. « Oh, alors dites-lui que j'ai mal à la tête et que je ne le dérangerai pas aujourd'hui. » Le message fut transmis et elle entendit la porte se refermer. Lucetta était venue à Casterbridge pour raviver les sentiments d'Henchard. Elle y avait réussi, mais se montrait maintenant indifférente à ce succès. Les craintes qu'elle avait conçues le matin même sur la gêne possible de la présence d'Elisabeth étaient évanouies et elle n'envisageait plus la nécessité péremptoire de renvoyer la jeune fille pour l'amour de son beau-père. Lorsqu'Elisabeth rentra, tout ignorante du cours des événements, Lucetta courut à elle, en s'écriant avec une sincérité parfaite. « Je suis si heureuse de vous avoir. Vous resterez longtemps avec moi, n'est-ce pas ?» Conserver Elisabeth comme chien de garde, pour tenir son beau-père à l'écart, quelle idée nouvelle ! Elle n'en était pas choquée, d'ailleurs. Henchard l'avait négligée, tous ses jours, après l'avoir tristement compromise dans le passé. Le moins qu'il eût dû faire en se voyant libre et en la sachant riche eût été de répondre cordialement et vivement à son invitation. Le cœur gonflé de sentiments contradictoires, tour à tour joyeux et attristé, Lucetta faisait de folles conjectures sur leur naissance soudaine, et c'est ainsi que s'acheva pour elle une journée pleine d'émotions.